Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et de 4e élections législatives en vue en Israël en moins de 2 ans. Hier soir, la Knesset a été dissoute faute d'accord sur le budget. Nous essaierons de comprendre l'incidence de cette impasse budgétaire sur le pays.
Aux États-Unis, les milliards de dollars pour aider les familles en temps de Covid sont finalement bloqués. Donald Trump l'a rejeté contre l'avis de son équipe. Nous irons à Washington.
Les ressortissants européens peuvent finalement quitter le Royaume-Uni. Il leur faut pour cela un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures. Dans le même temps, plus de 3000 routiers font la queue en ce moment pour prendre un bateau, vous l'entendrez.
Et puis nous ferons le point sur ce que contient le vaccin de Pfizer-BioNTech, sur l'ARN messager administré dès dimanche dans l'Union européenne.
Après cette édition, le billet politique, Frédéric Seyss vous emmène ce matin en Chine pour mieux comprendre la stratégie de Xi Jinping en temps de crise. Comme un air de déjà-vu en Israël, mais qui commence à peser sérieusement sur la gestion du pays. Le Parlement a été dissous hier soir automatiquement, faute de consensus sur le budget. Derrière tout cela, des dissensions grandissantes entre la droite et le centre, qui n'ont jamais réussi à gouverner ensemble. Résultat donc, les Israéliens vont devoir voter pour la 4e fois en moins de 2 ans. Ces élections législatives auront lieu en mars prochain. Frédéric Mettezo, notre correspondant dans la région, est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Frédéric, cette crise politique a lieu, il faut le souligner d'abord, dans un contexte sanitaire extrêmement tendu.
Oui, le gouvernement étudie aujourd'hui même la possibilité d'un 3e confinement en Israël et déjà, toute personne entrant dans le pays est placée en quatorzaine dans un hôtel spécial avec une ration militaire pour manger. Interdiction d'aller chez soi pendant 2 semaines. 4e élection et 3e vague. La presse israélienne est très critique ce matin. Yedioth Aharonot parle d'une relation dysfonctionnelle à cause du procès de Benjamin Netanyahou qui s'ouvre en février pour corruption. Le Premier ministre aurait passé toute son énergie à essayer de faire voter une loi d'immunité. Pour Maariv, Bibi est l'homme qui en voulait trop. Le moteur d'Israël est devenu un frein, écrit-il. Le journal montre aussi un dessin où un Père Noël offre des urnes à un enfant et lui dit « Tu as été un enfant vilain ». Israël Hayom, le quotidien de droite gratuit, accuse Benny Gantz d'avoir provoqué cette dissolution en perdant le contrôle de son propre parti. Le journal de gauche Haaretz parle d'un gouvernement zombie en place jusqu'aux élections dans 3 mois pile, les 3 mois parmi les plus laids dans l'histoire d'Israël, juge le Jérusalem Post.
Élection législative effectivement prévue car le Parlement a été dissous, je vous le disais hier soir. Le budget en fait n'est toujours pas voté, Frédéric. Comment le pays fonctionne-t-il depuis 2 ans?
Alors d'abord, cette impasse budgétaire n'est que le dernier couac dans cette coalition. Depuis le mois de mai, les ministres rivaux s'insultaient dans les médias, le Conseil des ministres n'était pas réuni, Netanyahou n'a pas prévenu ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, des normalisations avec 4 pays arabes, des postes importants sont vacants, comme le chef de la police nationale ou le procureur d'État, et donc il n'y a pas de budget. À cause de ces crises à répétition, Israël vit sur un budget adopté en 2018 et reconduit automatiquement depuis. En gros, on prend le budget 2018, on le divise par 12 et chaque mois, cette somme est versée automatiquement pour faire fonctionner l'État. Du coup, le gouvernement a une marge financière très très réduite.
Merci beaucoup Frédéric Mettezo pour ces précisions. Ce matin, vous étiez en direct de Jérusalem pour France Culture. De l'autre côté de l'Atlantique, il est aussi question de budget en temps de crise sanitaire. Le Congrès s'était mis d'accord avant-hier pour un plan d'aide à hauteur de 900 milliards de dollars, de l'argent frais directement distribué à 9 Américains sur 10. Plan validé hier par la Maison-Blanche, mais quelques heures plus tard, Donald Trump est intervenu pour dire qu'il ne signerait pas ce document en l'état.
Je demande au Congrès d'amender ce projet de loi et d'augmenter les ridiculement faibles $600 accordés aux Américains à $2000 ou $4000 pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi. Ils doivent m'envoyer un nouveau projet durable. Sinon, c'est la future administration qui devra mettre au point un nouveau plan d'aide face au Covid. Et peut-être que cette administration sera dirigée par moi et nous ferons ce qu'il faut.
Thank you very much. Donald Trump furieux qui souhaite donc augmenter ce budget pour le pays. En l'état, le plan d'aide ne peut pas entrer en vigueur sans sa signature. Depuis Washington, c'est notre correspondant Grégory Phillips qui nous explique les dessous de cette colère du président, prêt à tout pour s'accrocher au pouvoir.
Plus les jours passent, plus Donald Trump paraît isolé et furieux. Le site d'information Axios, généralement très bien informé, décrit un président amer et qui se plaint désormais de quasiment tous ses collaborateurs, qu'il qualifie au mieux de faible, au pire de stupide ou déloyal. Dans son viseur, Mike Pence, le vice-président, que Trump accuse de ne pas être assez combatif, son chef de cabinet Mark Meadows ou encore le secrétaire d'État Mike Pompeo. Selon Axios, tous ceux qui ne le confortent pas dans l'idée que sa victoire lui a été volée ne trouvent plus grâce à ses yeux. Même le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, en prend pour son grade. Il est le premier à avoir quitté le navire. Message envoyé lundi soir par l'assistant personnel du président à tous les élus républicains du Congrès. En fin de semaine dernière, Donald Trump a même, selon le New York Times, lors d'une réunion houleuse, évoqué l'idée de faire appel à l'armée pour renverser le résultat de cette présidentielle. Ses conseillers ont dû lui expliquer que c'était impossible. C'est dans cet état d'esprit que le président sortant part en vacances aujourd'hui à Mar-a-Lago en Floride, normalement jusqu'au 3 janvier.
Et avant cela, Donald Trump a gracié cette nuit 15 personnes, notamment l'un de ses anciens conseillers qui avait plaidé coupable dans l'enquête sur l'ingérence russe lors de l'élection de 2016. Idem pour d'anciens membres des services américains condamnés pour avoir tué des civils irakiens alors qu'ils travaillaient comme contractuels en 2007, graciés donc hier soir par Donald Trump. Ils ont été appelés pour des faits de violence conjugale cette nuit dans le Puy de Dôme, près de la commune de Saint-Just. Des gendarmes ont été pris pour cible par un forcené. Le bilan communiqué ce matin est très lourd. 3 gendarmes ont été tués par cet homme armé qui a ensuite mis le feu à sa maison. 3 morts donc et 1 blessé parmi les gendarmes. Une jeune femme s'était réfugiée sur le toit de la maison. Elle a été mise en sécurité, mais l'homme, le forcené, n'est pas encore maîtrisé à l'heure actuelle. Le GIGN et les pompiers sont évidemment sur place. France Culture, il est 8h passé de 7 minutes. L'OMS Europe se réunit ce matin pour discuter de la stratégie face au nouveau variant du coronavirus qui a été découvert au Royaume-Uni. Le pays est toujours quasiment isolé du continent, même si les ressortissants européens vont pouvoir le quitter. Il faut pour cela présenter un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures. Depuis minuit tout à l'heure, les flux de personnes et de marchandises ont donc repris sur décision de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Un test sera également obligatoire pour les chauffeurs routiers, résultat en 30 minutes avant de pouvoir embarquer sur un cargo, mais ce sera très compliqué. Ce matin, nous retrouvons Jean-François Coupigny, l'un des chauffeurs de poids lourds français coincés outre-Manche que nous entendions hier. Après la décision française dans la soirée, il reste sceptique.
Le temps que ça se mette en place, que les ordres soient donnés, que le matériel soit déployé, qu'on trouve le personnel pour le faire, j'y crois pas une seconde. Ces tests-là sont nominatifs, donc il faut prendre des informations de chaque chauffeur, faire le test, retrouver après le chauffeur, savoir dans quel camion il est pour lui fournir un document attestant qu'il a un test négatif, faire comprendre au chauffeur plusieurs nationalités, ça va prendre du temps, ça va prendre 24 heures minimum. Le chauffeur qui est sur le parking, qui est en tête de ligne, il peut avoir un sourire. On va lui faire le test, il va attendre 30 minutes, si on lui dit négatif, lui il va avoir la banane et puis il va démarrer son camion, on va partir comme un fou direction du bateau, ça c'est clair. Par contre, le gars qui est dernier de la file, je suis à 25 km de ce fameux parking, forcément, je crois que je vais passer Noël ici. Ça fait 25 ans que je pratique le transport, je peux vous certifier que écouler 3500 camions, ça va pas se faire en 24 heures.
Voilà pour les doutes des chauffeurs routiers sur place. Pour les ressortissants qui cherchent un test à Londres par exemple, sachez que les prix flambent, 160 euros minimum pour un test anti-Covid-19, c'est ce que souligne notre correspondant dans la capitale britannique. Précisons aussi que les livraisons de coquillages ou de crustacés en Bretagne, depuis la Grande-Bretagne, ont été suspendues ces derniers jours et cela a occasionné sur place des hausses de prix pour les produits importés. La vaccination contre le Covid-19 et ses variantes va commencer dans l'Union européenne ce dimanche. Elle ne concernera alors que quelques dizaines de résidents dans 3 établissements pour personnes âgées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le précisait hier soir. Mais que contiennent ces vaccins qui seront administrés? De l'ARN messager, des molécules dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais que l'on a parfois du mal à définir. Précision donc ce matin sur le fonctionnement de cette vaccination, c'est avec Anne Fauquemberg.
Classiquement, la vaccination repose sur l'administration d'un agent infectieux dans une forme atténuée ou inactivée. Cette fois-ci, le vaccin contiendra seulement le matériel génétique qui permettra à nos cellules de fabriquer des morceaux de virus, notamment une protéine du nom de Spike, protéine essentielle au coronavirus pour pénétrer nos voies respiratoires, explique Marion Mathieu. Elle est la formatrice scientifique de l'association Tous chercheurs qui vulgarise la science.
On peut comparer l'ARN messager à une recette de cuisine, une recette de gâteau. Et la protéine, ça va être le gâteau que vous fabriquez. Donc là, vous introduisez la recette de cuisine qui permet à nos propres cellules de fabriquer le gâteau. Donc les recettes de cuisine, c'est l'ARN messager qui sert à fabriquer la protéine Spike, qui est essentielle au virus SARS-CoV-2 pour pouvoir infecter nos cellules.
L'arrivée de cette protéine Spike dans notre organisme va le pousser à produire des anticorps afin de stimuler notre système immunitaire. C'est le schéma classique des vaccins, poursuit Marion Mathieu.
La protéine Spike, donc, c'est comme une clé en fait, qui est à la surface du virus et qui reconnaît une serrure qui est présente à la surface de nos cellules respiratoires. Et en faisant fabriquer des anticorps qui reconnaissent cette clé, en fait, vous neutralisez la clé, vous l'empêchez de rentrer dans la serrure.
Une neutralisation viable à 95%, c'est le taux d'efficacité du premier vaccin à ARN messager qui vient d'être autorisé par l'Union européenne. Il a été baptisé Comirnaty.
Et ce vaccin ne sera pas obligatoire. Le ministre de la Santé en France a dû le répéter hier soir après une polémique autour d'un projet de loi sur les prochaines crises sanitaires. Des élus s'opposaient en effet à une mesure qui permettrait au gouvernement de limiter les déplacements des Français non vaccinés. Le Rassemblement national y voit une obligation vaccinale déguisée, un texte liberticide, disent les Républicains. Hier soir, Olivier Véran a donc annoncé que ce texte serait finalement présenté au Parlement après la crise sanitaire du moment. Crise qui pourrait durer dans le temps, économiquement et psychologiquement. Pour les petits patrons en difficulté, par exemple, un numéro vert a été mis en place. Il permet de recueillir leurs paroles. Ce numéro est géré par l'APESA, l'aide psychologique pour les patrons en souffrance aiguë. L'association comptabilise déjà 1 000 000 d'appels cette année en 2020 contre 600 l'année dernière. Son cofondateur évoque l'urgence d'une prise en charge, Marc Bigné.
J'ai l'habitude de dire que les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. Eh bien, reconnaissons aussi qu'ils peuvent traverser des moments qui peuvent ressembler sur le plan sportif à un claquage et qu'on doit bien être à leur côté pour leur apporter le réconfort nécessaire, surtout lorsqu'ils vous déclarent à l'occasion d'une audience ou d'un rendez-vous qu'ils savent ce qu'il leur reste à faire. Je dis souvent que APESA, c'est pour éviter que des idées noires ne rencontrent des idées fausses. Et les idées fausses, elles sont aussi chez les entrepreneurs qui, par méconnaissance, parce qu'on ne leur a pas suffisamment expliqué, pensent qu'ils vont être jugés dans un tribunal alors que c'est l'endroit où se trouve la solution. Donc il y a tout un travail à faire pour expliquer et profiter de cette période qui est un peu drôle de crise pour justement continuer d'expliquer ce qu'il conviendra de faire le jour où les mesures générales qui sont prises n'auront plus cours et qu'il faudra que les chefs d'entreprise mettent en œuvre un certain nombre de procédures pour traverser les difficultés.
Des propos recueillis pour France Culture par Marie Viennot. Nous reviendrons dans les journaux de midi et demi et de 18h sur cette détresse des entrepreneurs. Le Conseil d'État interdit l'utilisation des drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique à Paris. Pour la plus haute juridiction administrative, une surveillance policière par drone ne pourrait être envisagée sans l'intervention préalable d'un texte qui l'autorise et qui en fixe les modalités d'utilisation. Le Conseil d'État qui doit par ailleurs, je vous le rappelle, se prononcer aujourd'hui sur la fermeture décidée par le gouvernement de tous les lieux culturels en France. Le monde du cinéma salue une carrière exceptionnelle, 110 films, 2 Césars, la carrière de Claude Brasseur. Le comédien s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Certains se souviendront des films La Boum ou Un éléphant, ça trompe énormément. Acteur éclectique qui avait été choisi en 96 par la documentariste Dominique Cabrera pour son premier film de fiction De l'autre côté de la mer. Claude Brasseur incarnait un industriel pied noir resté en Algérie après l'indépendance, rôle qu'il incarnait à merveille selon Dominique Cabrera. Tendez l'oreille.
Je crois que ce qui m'avait énormément touché, en fait, c'est le souvenir de quelque chose comme sa virilité, en fait. Il y avait quelque chose de, à la fois de très affirmé, je suis un homme, comme une sorte de puissance, et en même temps une grande fragilité, une sorte de mélancolie. Si vous regardez ses yeux, il a un sourire souvent sur les lèvres, et puis il y a quelque chose de triste dans les yeux. Et je crois que ce mélange, comme un monde perdu, un regret, quelque chose qui n'est pas accompli, je ne sais pas comment qualifier, ça faisait écho avec le souvenir de mes oncles, mes cousins, enfin les adultes pieds noirs quand j'étais enfant. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que je lui ai demandé de jouer. Il avait quelque chose de méditerranéen dans l'affirmation de la virilité, mêlée de fragilité, bien qu'il était parisien, quoi. Et il a été extraordinaire dans le rôle. Et énormément de pieds noirs sont venus vers moi après en me disant, mais vraiment, il n'est pas pied noir, mais il nous ressemble. Et sans bien sûr prendre l'accent ni quoi que ce soit, quoi. Il avait touché quelque chose de vrai, quoi.
Des propos recueillis par Maïwenn Bordron. Retour sur la carrière de Claude Brasseur sur notre site internet franceculture.fr. Le temps va rester doux ce mercredi avec un ciel nuageux sur tout le pays, avec quelques pluies au nord et du vent à l'ouest. Ce matin, Guillaume, il fait 9 degrés à Besançon, 10 à Montpellier, 13 degrés à Lille et à Paris, 16 à Bayonne.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, on va retrouver notre invité, l'historien Pascal Horry. Il se demande qu'est-ce qu'une nation ? C'est son ouvrage publié aux éditions Gallimard. Et puis alors, on va passer de l'histoire à la géographie. Ça va être la géographie imaginaire dans une demi-heure environ, du prix Goncourt Hervé Le Tellier qui, chaque jour, pendant ces matins, durant les fêtes de fin d'année, va nous dévoiler une ville imaginaire où il va nous emmener voyager puisque nous ne pouvons pas voyager. On évoquera également la question de la Seine à une époque où le secteur culturel est chahuté par le Covid. Nous serons en compagnie de la chanteuse, auteure, compositrice, interprète Keren Anne. Et puis Arnaud Laporte nous permettra de savoir à quoi pense un artiste. Dans quelques secondes, le billet politique de Frédéric Seize.